Seigneur. Très bien, très bien, merci beaucoup Pierre-Yves, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir convié à cette manifestation dont je n'ai pas pu tirer tout le profit du fait de mon arrivée tardive. J'ai été convié à parler des droits fondamentaux de la révision constitutionnelle, et il y a tout un tas d'aspects de cette question que je ne vais pas traiter. Je ne vais pas traiter la manière dont la révision constitutionnelle en France ou au Japon devrait, par exemple, entreprendre de limiter ou au contraire d'enrichir la population des droits fondamentaux qui est dans la Constitution, comme l'a proposé monsieur le député à l'instant, en faisant référence à des droits fondamentaux liés à l'habeas data. On pourrait penser aussi à des droits fondamentaux de la nature, comme il en existe en Équateur, ou à des droits fondamentaux des animaux, donc je n'aborderai pas cette question. Je ne porterai pas davantage l'attention sur la manière dont certains droits fondamentaux, et ça a déjà été traité lors de la table ronde précédente, pourraient opposer une limite infranchissable à des révisions constitutionnelles, en étant par exemple consigné dans une clause d'éternité. Ce que je souhaiterais faire, c'est beaucoup plus modeste en réalité, c'est attirer l'attention sur des risques que peut comporter une vision trop chirurgicale de la révision constitutionnelle qui s'intéresserait uniquement à la dimension droits fondamentaux de la révision constitutionnelle, tout en négligeant d'une certaine manière les effets de système que pourrait avoir une révision constitutionnelle touchant uniquement les droits fondamentaux sur les autres domaines de la Constitution, au prix possible d'une mise en péril des objectifs mêmes d'une révision constitutionnelle qui voudrait pousser vers une protection plus forte des droits fondamentaux. Donc à cette fin, je repars d'un peu loin, mais le constitutionnalisme contemporain n'est qu'une des formes de constitutionnalisme qu'a connue l'humanité depuis qu'elle organise sa vie politique au moyen du droit politique, du droit constitutionnel. Et aujourd'hui, la Constitution est de manière dominante comprise comme une norme, c'est-à-dire d'un point de vue formel qu'elle clôt l'ordre juridique, définit dans une logique kelsenienne les propriétés que doivent posséder les autres éléments de l'ordre juridique pour appartenir à cet ordre juridique. Et elle est d'une norme supérieure à toutes les autres. D'un point de vue actif, il lui est loisible de déroger à toutes les normes inférieures, et d'un point de vue passif, elle peut résister à la dérogation par d'autres normes. C'est la logique kelseno-merkelienne de la pyramide des normes. Du point de vue substantiel, la Constitution comme norme est perçue comme le document dans lequel sont consignées les valeurs fondamentales, le projet politique que la société se donne et avec lequel elle souhaite aller de l'avant. Donc, comme le dit l'article 6 de la Constitution des États-Unis, la Constitution est bien perçue comme la loi suprême du pays. Et afin de garantir sa suprématie, elle met en œuvre deux grands dispositifs. L'un, la rigidité constitutionnelle, donc une procédure de révision constitutionnelle tendanciellement plus compliquée, sur tout un tas de critères temporels, procéduraux, voire substantiels, que la procédure législative ordinaire, et puis l'existence d'un contrôle de constitutionnalité, l'une et l'autre tendant à exprimer la supériorité de la volonté du pouvoir constituant et le commandement du pouvoir constituant vis-à-vis des pouvoirs constitués. Et les droits fondamentaux, dans cette perspective, expriment au premier chef les obligations, donc les normes, qui s'imposent au pouvoir constitué. Interdiction de les violer, interdiction de réaliser des actions qui méconnaîtraient des droits fondamentaux de première génération, essentiellement perçus comme des limites à l'action de la puissance publique, afin de préserver la sphère d'action d'un homme abstrait. Obligation de promouvoir des droits fondamentaux, plutôt concernant les droits fondamentaux de la deuxième génération, qui eux sont des droits économiques et sociaux qui appellent la puissance publique à servir un certain nombre de prestations à leurs destinataires. Et ceci conduit fréquemment à singulariser les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux vis-à-vis des autres dispositions constitutionnelles relatives à d'autres domaines. Et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce par exemple que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Et donc il y a un double critère de ce qu'est la Constitution qui conduit à distinguer deux parties, deux segments dans la Constitution. Dans la doctrine hispanophone, on parle de partie organique pour la partie de la Constitution qui a trait à l'établissement des principales institutions, de leur pouvoir, de leur mode de désignation, de leur mode d'action, de leurs relations, et puis de partie dogmatique pour la partie de la Constitution qui exprime le projet politique de la société et qui contient notamment les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux de la population, des individus et des groupes. Et de ce point de vue, le texte même de la Constitution de 1958, comme l'a dit Sacha Houillet, contient essentiellement des dispositions de type organique. Et c'est seulement à la suite de la décision du Conseil constitutionnel de 1971 qu'elle s'est enrichie de dispositions d'ordre dogmatique sur les droits fondamentaux. Au Japon, le chapitre 3 sur les droits et devoirs du peuple relève de la catégorie dispositions dogmatiques sur le type de valeurs qui sont protégées par la Constitution, tandis que les autres parties de la Constitution sur l'empereur, la diète, le cabinet, le pouvoir judiciaire relèvent de la partie organique. Et ce sur quoi je souhaiterais attirer l'attention, c'est les risques qu'il peut y avoir à distinguer trop nettement ces deux parties et à penser réviser certains éléments de l'un des deux secteurs sans prendre en compte les conséquences que ça peut avoir sur l'autre secteur. Il ne me semble pas envisageable de procéder à une révision constitutionnelle en négligeant ce que certains théoriciens de la décision appellent les effets de système, donc les effets que le fait de toucher à l'une des parties peuvent avoir sur l'autre. Par exemple, dans cette théorie des effets de système, on développe le concept de sophisme de composition, qui consiste à croire que si tous les membres d'un agrégat présentent une certaine propriété, l'agrégat lui-même, l'ensemble, présente également cette propriété. Puis il y a le sophisme inverse, le sophisme de division, qui consiste à croire que si un agrégat possède une certaine propriété, eh bien chacun des éléments qu'il compose possède également cette propriété. Exemple, dans un système démocratique, globalement, il est parfaitement possible de rencontrer une institution qui n'est pas démocratique, qui agit de manière antidémocratique. Et c'est précisément la manière dont, aux États-Unis, on justifie le contrôle de constitutionnalité des lois. La Cour suprême agit de manière antidémocratique, puisque son objectif est précisément de bloquer les velléités de la majorité, mais elle permet de cette manière de conserver le caractère démocratique de l'ensemble du système, en veillant, par exemple, que les processus électoraux soient aussi inclusifs que possible, en veillant à ce que des valeurs fondamentales d'une démocratie, comme la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté politique, etc., soient préservées. Donc, dire que pour que le système constitutionnel soit démocratique dans son ensemble, toutes les institutions qu'il compose doivent l'être, c'est un sophisme de division. De même, dire que si une juridiction constitutionnelle agit de manière antidémocratique, le système dans son ensemble ne l'est plus, c'est un sophisme de composition. Autre exemple, il est possible dans une assemblée politique que chacun des individus qui y siègent soit mu par des préjugés. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'assemblée sera mu par les mêmes préjugés si les préjugés des uns annulent les préjugés des autres. Donc globalement, on peut avoir un effet de main invisible qui conduit à la neutralité, à l'impartialité de l'institution dans son ensemble, précisément parce que chacun de ses membres n'est pas impartial. La théorie de la balance des pouvoirs repose exactement sur cette logique-là. Il y a trois institutions, le roi, la Chambre des communes, la Chambre des lords, trois intérêts, trois préoccupations sociales, trois intérêts politiques différents, et on aboutit à une législation modérée précisément parce que c'est l'interaction de ces trois préjugés ou de ces trois forces partielles qui se combinent pour aboutir à une législation impartiale. Donc de ce point de vue, il me semble nécessaire, quand on pense réviser la Constitution, et quand on pense précisément réviser la Constitution concernant les droits fondamentaux, en général pour accroître leur portée, accroître leur force, accroître leur nombre, de ne pas raisonner morceau par morceau, mais de raisonner de manière globale. Et je m'appuie à cette fin sur la démonstration qu'en a faite Carlos Nino, un juriste argentin, qui détaille la manière dont certains activistes de gauche, voire de gauche radicale en Amérique latine, ont tenté de promouvoir de nouveaux droits fondamentaux pour inclure de manière beaucoup plus nette qu'auparavant un certain nombre de populations tenues à l'écart du processus politique, économique et social dans la dynamique politique. Ces constitutionnalistes de gauche ou de gauche radicale ont insisté pour que la Constitution contienne de plus en plus de droits fondamentaux, et notamment de plus en plus de droits fondamentaux de nature économique et sociale. L'ambition est généreuse, l'idée c'est de mieux prendre en compte les besoins de ces populations défavorisées, tendanciellement exclues, mais Nino met en garde contre les effets systémiques d'une telle décision. Il est très louable de vouloir renforcer la position de ces populations, mais quel va être l'effet systémique ? Du point de vue de la séparation des pouvoirs, donc du point de vue de la partie organique et non plus dogmatique de la Constitution, on va conduire à renforcer mécaniquement le rôle des juges au détriment des parlements. Plus on consacre de droits fondamentaux, plus on accroît la compétence des juges pour censurer les actions des parlements. Or, c'est paradoxal selon Nino, puisque c'est même contre-productif, voire contradictoire, puisque selon Nino, c'est bien sur le Parlement que ces populations défavorisées ont le plus de prise du fait du processus électoral, quand bien même il serait imparfait. En toute hypothèse, ils ont beaucoup plus de prise sur le Parlement que sur les juges, qui sont indépendants, qui ne sont pas soumis à une pression populaire, qui forment en général une classe qui s'appuie sur une expertise technique, qui développe une culture particulière, qui tend précisément, par sa vision des choses juridicisée, à exclure le commun des mortels. Conclusion, en raison de l'effet systémique d'une révision constitutionnelle qui vise à promouvoir les droits fondamentaux de cette population, on renforce l'emprise sur le système de ce qui, selon les prémices de ceux qui veulent renforcer les droits de ces populations, est une caste qui a les intérêts les plus opposés à cette population même. Donc du point de vue de l'impact global du système, on a, en fait, dans ce mouvement de gauche latino-américaine qui vise à renforcer les droits fondamentaux, une stratégie qui, en fait, s'auto-réfute ou conduit précisément à la conséquence qu'elle aurait plutôt eu tendance à éviter si elle avait pris en compte simultanément partie organique et partie dogmatique. Donc le pouvoir constituant, dont le volontarisme s'exprime à titre principal à travers des révisions constitutionnelles, doit nécessairement être attentif à ce type de préoccupation. Surtout, et tout autant, mais surtout, les citoyens doivent être attentifs à ce que, sous couvert de renforcer les droits fondamentaux aussi, on ne renforce pas des pôles institutionnels qui n'ont aucun intérêt à ce qu'ils soient garantis ou qui vont limiter la prise du peuple sur le fonctionnement des institutions. Peut-être, au bout du compte, ma mise en garde n'est qu'une manière de répéter ce que disait Montesquieu ou ce qu'il faisait dire ou écrire par Houellebecq à Arédi. Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante. À tout le moins, me semble-t-il, s'agit-il de n'y toucher, notamment en matière de droits fondamentaux, où plus qu'ailleurs, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions que de manière consciente. Je vous remercie.